Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Mais merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie moi aussi Christian Vanin et Barbara Semel qui ont eu fort à faire, essayer de trouver des dates qui conviennent à tout le monde et puis mettre en œuvre cette conférence. C'est vrai que ça a demandé un petit peu et même pas mal d'énergie. Je suis très heureuse d'être ici et je trouve que vous avez beaucoup de chance quelque part d'être à Paris dans une UNR. Parce que nous, en Belgique, on n'a pas cette habitude de rassembler les personnes qui sont nos voisins directs et qui travaillent sur les mêmes problématiques que nous. Donc, parfois, on a plutôt tendance à aller chercher des collègues au Canada, en Australie, etc. Et autour de nous, on a aussi des collègues régionaux que l'on pourrait rassembler pour travailler avec eux. Et ça se fait très peu chez nous, en Belgique. Donc, je trouve que vous avez trouvé là une belle formule, finalement, avec des cycles qui vous permettent aussi de communiquer entre vous et de faire sans doute émerger de plus en plus de projets communs, parce que les services TIS ont un rôle vraiment très difficile à jouer. C'est pas facile de mobiliser les enseignants, c'est pas facile d'essayer de faire bouger les choses et d'entreprendre des réformes, donc je pense qu'on n'est jamais assez nombreux pour les mener à bien et pour essayer de dynamiser les équipes de ces enseignants qui ont déjà tellement à faire, en plus des TIS, et qui n'ont pas beaucoup de temps pour se tracasser finalement de la qualité de leur enseignement. Donc aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est pédagogie numérique, une nécessaire formation des enseignants-chercheurs. Le point d'interrogation est quasi une formule de politesse, mais je pense qu'elle est nécessaire, la formation des enseignants-chercheurs. J'aime malgré tout le poser sous forme de question parce qu'on se demande un peu quel type de formation. Bon, ça c'est vrai, je pense qu'elle est nécessaire, mais je pense que c'est pas forcément uniquement une formation de type classique dans un amphi avec des cours ex cathedra ou uniquement des conférences comme on fait ici. Je pense qu'il faut pas mal de mesures en complémentarité les unes des autres pour que les enseignants-chercheurs se mettent en mouvement sur l'enseignement comme ils se mettent déjà en mouvement évidemment au niveau de leur recherche. Alors un petit plan, je vous dirai deux mots de ma posture de départ, parce que c'est toujours en fonction de ça, évidemment, que le discours de la personne peut être interprété. Puis on va parler des TIS et de la manière dont elles sont utilisées dans l'enseignement. Puis de cet accompagnement, vous voyez que le point d'interrogation a disparu, il est nécessaire. Et puis on terminera par une petite conclusion, on ouvrira sur une discussion. Ma posture de départ, donc, c'est celle d'une enseignante d'abord. Moi, je me considère d'abord comme enseignante. J'ai un temps plein d'enseignante. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça dans mon temps de travail, mais c'est quand même vraiment toujours mon point de départ. Et je pense que c'est important de rester enseignant quand on travaille avec des enseignants, parce que ça donne aussi de la crédibilité, mais ça permet de parler de choses qu'on a soi-même expérimentées. Et donc, ça fait déjà du coup beaucoup moins donneurs de leçons, parce que oui, on se coltine aussi des amphis, des classes, voilà, ça fait partie du quotidien. Je pense que c'est important que ça reste dans mon quotidien, à moi en tout cas. Alors, je viens de Belgique, ça veut dire qu'il faudra m'excuser si je ne fais pas référence toujours à votre contexte local. J'en connais un petit bout, mais bon, la France est grande, les pratiques sont multiples. Et puis, je ne vais peut-être pas utiliser tous les sigles que vous êtes habitués à manipuler beaucoup mieux que moi. Donc, au moment de vos questions, il faudra peut-être m'expliquer ce dont vous parlez plus exactement que si j'étais française, c'est évident. Alors le domaine, c'est celui de la pédagogie universitaire. Je vous en dirai quelques mots aussi, c'est un champ de recherche qui est assez jeune. Certains disent qu'il s'agit d'une discipline, d'autres un champ de recherche. Je pense qu'on ne va pas entrer dans le débat aujourd'hui, mais en tout cas c'est quand même clairement un champ de recherche et un champ d'enseignement. Il profite de l'influence d'un courant qu'on appelle le Scholarship of Teaching and Learning. On va un petit peu approfondir aussi. Mais c'est un champ dans lequel énormément de choses bougent. Et il y a un engouement, je dirais, pour ce champ qui est très important au niveau international. Je dirige l'équipe du LabSET et en particulier dans cette équipe d'une trentaine de personnes, il y a la charge du campus virtuel de l'ULG. Donc, c'est à ce titre que moi, je touche au TIS, surtout à travers notre campus virtuel. Et j'étais aussi avec Dieudonné Leclerc à l'initiative de la création d'un master complémentaire, donc au sens Bologne du terme, pour les enseignants du supérieur qui veulent améliorer leur pratique. Donc ils peuvent le faire en venant à des ateliers, en se formant de manière plus informelle, mais ils peuvent aussi s'engager dans un master complémentaire de 60 crédits qui vraiment travaille avec chacun individuellement sur sa manière d'enseigner et dégage une question de régulation pour que l'enseignant s'améliore dans son enseignement, en prenant des données sur ses étudiants, en les analysant et en faisant des recherches sur les données de ses étudiants, tout comme il le fait dans son champ disciplinaire de départ, que ce soit la chimie, la physique, l'économie, la philosophie, peu importe. Donc, ça, c'est ma posture. Donc, je vais parler beaucoup en tant qu'enseignante. Je vais souvent mentionner les TIS, et je pense que c'est assez indissociable aujourd'hui, que ça fait partie de la qualité de notre métier que de pouvoir manipuler certains outils, parce qu'il s'agit vraiment d'une valeur ajoutée. Et puis c'est vrai que je fais parfois des références plus théoriques, et ça c'est aussi en raison du fait que ben, dans Formasup, comme c'est un master complémentaire, on travaille à un niveau, avec des enseignants qui sont tous en bac plus 5 et qui viennent chercher autre chose pour nourrir leur pratique enseignante. Alors la pédagogie universitaire, je pense que c'est important de savoir qu'il s'agit d'un nouveau domaine de recherche, notamment parce que peut-être certains d'entre vous s'y sont déjà lancés en tant que chercheurs, et puis d'autres pourraient s'y lancer en tant que chercheurs. On cherche des chercheurs en pédagogie universitaire, mais c'est un champ qui a une cinquantaine d'années, en gros, Hubert Javot en est un tien. Et ce champ-là, ce n'est pas comme justement la physique, la chimie ou l'économie que je mentionnais tout à l'heure, qui sont bien plus anciens. Ici, en pédagogie universitaire, les références sont plus jeunes. Il s'agit de références, les plus marquantes, je dirais, sont du début des années 90, même s'il y avait déjà des revues précédemment. Le courant de la professionnalisation enseignante, moi, j'aime assez bien marquer les débuts avec Schoen, avec Boyer. Donc, Schoen, on est aux alentours de... je dois traduire en français parce que je pense en belge. Non, 88, ça, c'est bon. Ça ne se traduit pas, c'est bon. Boyer, c'est 90, alors déjà, 90, voilà. Donc, 88, 90. Schoen, donc, vous avez tous entendu parler du praticien réflexif, le « reflective practitioner » en anglais. Il est cité en français et en anglais parce que ses ouvrages sont traduits, donc là vous les trouvez très très facilement. Et en gros, pour Schoen, l'enseignant quand il enseigne, au moment où il enseigne, il fait ce qu'on appelle la réflexion dans l'action. Donc au moment où il agit, il réfléchit évidemment à chaque minute sur les micro-régulations qu'il peut apporter, non seulement en fonction de ce qu'il sait de son contenu qu'il est en train de travailler et de partager avec un groupe d'étudiants, mais aussi en fonction des réactions des étudiants. Est-ce qu'ils ont l'air de comprendre, de ne pas comprendre? Est-ce qu'ils ont l'air actifs? Est-ce que c'est le moment de les questionner? Ou bien est-ce que je dois aller jusqu'au bout de tel raisonnement avant de les questionner? Donc l'enseignant est tout le temps en interrogation, en réflexion, dans l'action, au moment où il agit. Et puis il y a un deuxième moment, c'est la réflexion sur l'action, où l'enseignant est rentré chez lui, il pense à son cours, et il pense à ce qu'il ferait s'il devait recommencer. Alors recommencer, ça peut être pour la séance du lendemain parce qu'il revoit ses mêmes étudiants, ou pour un autre groupe parce qu'il peut transférer, ou pour son cours de l'année suivante, au moment où il va le voir peut-être un peu différemment en fonction de ce qui s'est bien ou pas bien passé dans la séance. Donc la réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action se complètent et montrent que finalement enseigner, c'est un acte éminemment complexe, c'est un acte difficile, c'est un acte qui s'apprend, c'est pas un acte inné. C'est un acte qu'on peut améliorer au fur et à mesure de sa carrière. Et ça, ça a participé, notamment aux États-Unis, à une revalorisation de la profession enseignante. Donc il ne s'agit pas d'un acte bête où on rentre dans une classe, on débite un texte et puis on rentre chez soi. C'est tout autre chose. Et essayer de montrer ce qui se passe dans cet acte d'enseigner, quand on le décortique, ça participe vraiment à revaloriser les enseignants et à montrer la complexité de l'acte et tous les lieux où on peut l'améliorer. Boyer, c'est un peu pareil. Donc Boyer, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, il y a quatre professionnalités Il n'y a pas juste, d'une part, l'enseignement un peu dévalorisé, et puis d'autre part, la recherche. Ce n'est pas comme ça qu'on découpe. Lui, il découpe autrement, avec une professionnalité de la découverte. Enfin bon, il le découpe autrement. Et une de ces quatre professionnalités, c'est la professionnalité de l'enseignement, justement. Donc il dit, s'il y a quatre éléments importants dans nos universités, l'enseignement est un des quatre. Et donc, ça contribue un peu à casser ce nexus, qu'on dit, donc ce gap, cet écart entre l'enseignement dévalorisé et la recherche très valorisée. Et ça dit, bah, écoutez, il y a quatre tâches, on devrait tous pouvoir faire les quatre, et une des quatre, c'est l'enseignement. Donc là aussi, il y a un apport concret où on dit, mettons l'accent là-dessus. Et le courant du Scholarship of Teaching and Learning, qui a découlé aussi un peu de Boyer et de ses travaux du début des années 90, eh bien, avec Kreber, avec Triguel, avec Prosser, avec des tas d'auteurs, ils ont dit, bon, dans la professionnalité de l'enseignement, eh bien, finalement, on fonctionne un petit peu comme dans d'autres disciplines. Il faut absolument avoir une documentation de ses pratiques. Donc, ça, dans le champ de l'enseignement, comme dans tous les autres champs, il y a des choses qui s'écrivent. Si on parle de motivation, mais il y a des auteurs qui ont écrit sur la motivation. Donc, si on veut améliorer la motivation dans sa classe, on va commencer par lire quelques articles, voir un ouvrage, à essayer de voir quels sont les auteurs les plus pertinents à mobiliser pour cette problématique de la motivation. Donc, on ne va pas partir de rien. On va commencer par se renseigner sur le champ, donc se documenter. Et puis, on va prendre des données. On va prendre des données sur ses étudiants dans sa classe. On va faire une sorte de recherche en classe. Les étudiants sont là, ils réussissent, ils échouent, mais ce n'est pas la seule donnée qu'on peut rassembler. On peut voir leur attention en classe, la manière dont ils réussissent des tests formatifs, la manière dont ils sont plus rapidement arrivés au but, et quel est le but, donc si on a cinq critères, plus rapidement rencontrer les cinq critères dans tel type d'étude de cas que dans tel autre type d'étude de cas, quand on les met en groupe et qu'ils doivent produire un poster et qu'il y a telle et telle et telle condition, alors on a plus de chances de rencontrer tel type de résultat. Donc tout cela s'étudie. Évidemment, il y a des facteurs qui jouent en influence les uns avec les autres, mais c'est comme dans toutes les disciplines. Et donc, s'habituer à, un, se documenter, deux, faire de la recherche, trois, renourrir le champ en retour par ce que l'on a découvert soi-même, et ça peut être juste à l'échelle d'une classe. Il n'y a aucun problème à ça. Pour autant qu'on dise, évidemment, que ça concerne peut-être 50 étudiants dans tel et tel et tel contexte, donc on précise son contexte. Mais ça peut être utile pour d'autres chercheurs de savoir ce qui s'est passé dans une classe où il n'y avait que 50 étudiants qui ont fonctionné comme ci, comme ça pendant X heures de cours. Donc, fonctionnons comme des chercheurs, en tant qu'enseignants, et nous participerons au développement de ce champ de recherche et de ce champ de pratique qui est défini par certains auteurs comme une praxéologie, d'ailleurs, donc une science de la pratique, si on peut dire, qui est faite pour enrichir le fonctionnement des personnes dans leur activité professionnelle quotidienne. Donc ça, c'est ce courant de la professionnalisation enseignante. On devient des professionnels de plus en plus armés, de plus en plus compétents. C'est vraiment important de savoir que ce champ est immense pour l'instant et il s'outille. Il y a des journaux spécialisés, il y a des centaines de journaux rien qu'en pédagogie universitaire, de par le monde, je ne dis pas en français. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux lire un peu l'anglais quand on est intéressé par le champ, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses en anglais qu'en français. Ceci dit, au niveau de la francophonie, on n'a quand même pas à rougir. Il y a l'Association internationale de pédagogie universitaire, la SAPES au Canada, donc il y a quand même des associations et des tas d'entités qui produisent du savoir aussi en français. Alors il y a des conférences spécifiques, des courants théoriques, mais vraiment à l'intérieur de la pédagogie universitaire, il y a maintenant des spécialités donc en sous-champs, si on peut dire, en sous-domaines. Donc il y a vraiment de quoi, même de manière pointue, s'axer dans un champ plutôt qu'un autre. Et puis il y a même des enseignements. Moi, je vous ai parlé du master complémentaire FormaSup. En Belgique, chaque académie universitaire a l'autorisation décrétale d'ouvrir un master complémentaire comme celui-là. Donc il y en a trois en Belgique pour l'instant. Et puis il y a même maintenant des doctorats en pédagogie universitaire. Donc Évidemment, quand un champ est jeune, on ne peut pas dire qu'on a déjà sorti 150 docteurs en Belgique et en pédagogie universitaire, c'est évident. Mais bon, on a déjà maintenant quelques docteurs dans ce champ de recherche particulier. Alors chez nous, ça a déclenché le lancement de Formasup, c'est courant, puis la création de l'IFRES, qui est l'Institut de formation et recherche en enseignement supérieur. Je vous montre ici, pris d'Internet, quelques copies d'écran pour vous montrer que le champ est vaste. Vous avez en haut à gauche, surligné de bleu, qui nous vient de l'Université du Québec à Chicoutimi, des listes de centres, de comités de pédagogie universitaire, de colloques internationaux, de revues, de journaux scientifiques. Donc là, on est en français, à Chicoutimi. Et puis, sur la droite, vous avez l'équivalent d'une liste aussi de ressources et surtout de journaux scientifiques qui vient de POD, donc Professional Organizational Development Network aux États-Unis, qui est l'association professionnelle des États-Unis. Vous avez pareil en Angleterre, vous en avez une en Australie aussi. Donc ce sont vraiment des champs qui sont bien investis maintenant et pour lesquels il y a moyen de trouver pas mal de ressources sur Internet. Ceci, c'est la page accueil de notre master complémentaire et vous voyez qu'on commence en disant « professionnaliser votre enseignement ». Donc il s'agit bien de travailler sur son propre enseignement et de le rendre plus professionnel. C'est pareil dans les deux autres académies universitaires belges. Ici, nous sommes sur le site de l'IFRES, donc l'Institut de formation de recherche en enseignement supérieur qui a été créé dans mon université, avec les différents types de services qui sont offerts. Vous voyez d'abord évidemment à propos de l'IFRES, et puis soutien à l'enseignement, les différents types de soutien, des ateliers, des formations. Et vous voyez ici qu'on peut avoir accès à l'agenda des formations pour lesquelles les enseignants utilisent une inscription en ligne toute simple. On reparlera des formations tout à l'heure. Alors on soutient aussi les innovations facultaires et la recherche en enseignement en pédagogie universitaire. C'est un exemple. Vous avez des centres comme ça dans pas mal d'universités maintenant. Je dirais qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, toutes les grandes universités ont un centre qu'on appelle généralement Teaching and Learning Center ou bien Centre pour l'apprentissage et l'enseignement. Mais c'est vraiment quelque chose de très courant. Et c'est dans ces centres qu'on trouve ce qu'on appelle les conseillers pédagogiques ou les accompagnateurs pédagogiques qui aident les enseignants à améliorer leur enseignement, que ce soit avec ou sans technologie. Mais maintenant, c'est très rare quand ces centres ne comprennent pas une composante technologique, vu que quand on est amené à aider un enseignant pour améliorer son enseignement, c'est difficile de l'envisager sans aucun recours à la technologie. On passe quand même à une vitesse supérieure quand on utilise la technologie. Donc dans ces CLT ou Teaching and Learning Centers, on voit beaucoup de conseillers pédagogiques qui sont en fait des technopédagogues, qui manipulent la technologie, qui peuvent conseiller à propos de technologie, et travailler aux côtés des enseignants. Alors, les conseils pédagogiques, moi, ceux que j'engage, je veux qu'ils soient enseignants. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller mettre une couche technologique sur un bon enseignant que d'aller mettre une couche pédagogique et réflexive sur quelqu'un qui a la maîtrise technologique au départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informaticiens nécessaires dans les équipes, hein, mais ils sont informaticiens, alors ils sont très très bons. Ou alors, moi, les conseillers pédagogiques, je préfère qu'ils soient enseignants. Déjà, ça leur donne une crédibilité par rapport aux enseignements, en général. Quand ils ont un prof en face d'eux, ils peuvent dire, bah oui, bah moi, quand j'avais une classe, c'était comme ceci, c'était comme ça. Ou moi, les questions de discipline, ceci. Enfin, c'est un enseignant, pour autant qu'il soit réflexif, donc ça aussi, dans les entretiens, on accorde énormément d'importance à ça. Donc c'est un enseignant qui doit avoir conscience de ses limites, de ses progrès quand il en fait, des problèmes qui restent dans son enseignement et de la manière dont il pourrait s'améliorer. Il sait bien qu'il ne peut pas tout faire d'un coup, mais il voit un peu par où aller, parce qu'il a une bonne critique, réflexion critique sur son enseignement. Cela, ça fait des bons conseillers pédagogiques en général. Donc on met une bonne couche technologique là au-dessus. On les jette dedans, d'abord un peu avec nous et puis un peu tout seul. Et puis on les prend un peu comme des poussins dans les réunions d'équipe. Et puis ils prennent la parole petit à petit. Et puis on leur donne un groupe en charge et on travaille un peu avec eux en arrière-plan. Et puis ils volent tout seuls. Mais voilà, je pense que la couche qu'il y a à mettre là au-dessus, elle est technologique et puis alors elle est dans le contact avec les autres conseils pédagogiques et les collègues au quotidien. Alors maintenant, nous, ce qu'on utilise beaucoup aussi pour leur formation, c'est notre diplôme Formasup. Et ça peut être un autre master complémentaire en pédagogie de l'enseignement supérieur, mais c'est une réflexion sur l'enseignement supérieur avec prise de données sur des vrais étudiants, etc. Alors si on n'a pas sa classe à soi, bon, dans Formasup, on n'est pas admis. Nous, c'est vrai qu'on a mis ça comme un des critères de départ. Il faut avoir enseigné depuis 3 ans. Enfin, il faut enseigner depuis 3 ans. Et puis, il faut avoir sa classe, parce qu'à tout moment, on dit, tiens, pour la semaine prochaine, prenez un peu des données sur tel paramètre, ou bien faites passer tel type de questionnaire. Bon, voilà. Mais ça pourrait s'envisager aussi dans d'autres modalités, par exemple avec des enseignants qui n'ont pas forcément de classe au moment où ils suivent la formation, mais qui sont accueillis dans la classe d'un collègue pour prendre des données quand ils le veulent et pour être un peu en réflexion avec cet autre enseignant. Ça, c'est possible aussi. Mais donc, l'aspect réflexivité est quelque chose d'extrêmement important pour ces conseils pédagogiques. Travail en groupe. Voilà, ne pas être donneur de leçons, connaître la littérature pédagogique, ça c'est vraiment nécessaire, pédagogie universitaire, parce qu'il ne faut pas réinventer la roue non plus. Donc il faut que les gens puissent... Enfin, c'est aussi une question de crédibilité par rapport aux enseignants. Même quand on est dans une de ces séances de formation, là on doit pouvoir à tout moment mobiliser un modèle, expliquer quelque chose en disant, bon ici il y a 5 paramètres, on va prendre ces 3-là en compte. Ici il y a des variables, on ne peut pas les isoler toutes, on va travailler avec celle-là, celle-là, celle-là. Donc montrer aussi que... on peut avoir une, comme on dit, evidence-based pedagogy, où on a donc une discipline qui est basée sur des preuves d'apprentissage. Tout comme il y a une evidence-based medicine, evidence-based veterinary medicine, on a une science basée sur des preuves maintenant dans pas mal de disciplines, mais la pédagogie aussi. Si on travaille la motivation, on peut isoler différents facteurs et dire « je travaille sur le second et voilà comment je vais ». Isoler mes variables, je vais travailler sur ça cette année. L'année suivante, je ferai une autre amélioration, mais ici, je travaille uniquement sur le contrôle de la tâche, par exemple, ou sur le sentiment de compétence. Mais voilà, on sait sur quoi on travaille, on y travaille, on est focalisé, on produit des conclusions qui sont partageables avec nos collègues. Ça, c'est vraiment important qu'ils puissent faire ça. Donc, soit ils savent le faire dès le départ, mais ça, c'est très, très, très rare, parce que ce n'est pas enseigné aux enseignants dans les écoles où ils apprennent à être enseignants. Ce n'est pas du tout enseigné. Maintenant, c'est un peu normal aussi, quelque part, puisqu'on ne leur a pas appris à être des chercheurs dans leur discipline. Mais difficile, c'est très difficile de les recruter, parce que justement, il y a énormément de compétences à avoir.
Est-ce qu'ils vont être fiers d'être conseillers ?
Alors, je pense que ça dépend de l'institution dans laquelle ils travaillent. Dans mon institution, voilà, dans mon équipe, il y a... Sur les 30 personnes, il y en a une quinzaine qui sont conseillers pédagogiques. Mais ils ne redeviendront jamais plus enseignants. Ils deviennent conseillers pédagogiques. C'est une sacrée formation à ajouter à sa formation d'enseignant de départ. Et donc, ils ne reviendront pas enseignants, sauf s'ils le souhaitent. Ils peuvent dire, moi, je veux une classe à moi, je veux terminer tout ça, je veux ma classe. Mais généralement, ça ne se passe pas trop comme ça. Donc, ils sont conseillers pédagogiques, ils le restent et ils augmentent en compétences. Quand ils augmentent en compétences, ils changent de tâche aussi. Par exemple, les plus expérimentés sont appelés à guider des réformes de filières, alors que ceux qui sont moins expérimentés vont travailler en one-to-one avec un enseignant. Ils pourront le conseiller, le guider, mais c'est moins risqué que de conseiller un doyen dans son orientation d'un nouveau programme de formation. Et celui qui est appelé par le doyen pour orienter un nouveau programme de formation, il est appelé dans un conseil de faculté, par exemple, c'est quand même c'est stressant, mais c'est aussi valorisant. Donc c'est quelqu'un qui est vu par les 20 profs, les académiques qui sont autour de la table, il est vu comme quelqu'un qui va conseiller la filière dans son orientation programme et dans ses réformes de méthode. Au niveau de l'image, c'est quand même un rôle qui est très important. Alors maintenant, à chaque institution, sa politique de valorisation, rien n'empêche d'avoir une revalorisation salariale. Chez nous, ça se fait sur dossier, ça se fait à l'ancienneté. Enfin, chaque institution a sa manière de fonctionner. Mais c'est vraiment une carrière. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une carrière parce que ça demande une telle formation en plus de sa formation de départ qu'on y va progressivement et on est bien content de trouver quelqu'un qui a déjà exercé dans une autre université comme conseiller pédagogique. Ah, notre ami Hubert qui s'est fait débaucher de la Belgique par... Il ne faut pas nous les piquer tous. Hein. Non, mais on vous en piquera aussi. Mais c'est vrai que, bon, par exemple, dans l'équipe de Grenoble-Lyon, là, ils sont en train vraiment d'investir dans la constitution d'un petit groupe qui se forme mutuellement. Ils sont bien organisés pour faire des choses ensemble. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si, par exemple, on veut travailler avec un prof d'aérospatial, même si on a un conseiller pédagogique qui est issu des sciences appliquées, on ne va pas envoyer celui-là. Parce que le prof qui consulte un conseiller pédagogique, il n'a pas du tout envie de voir un spécialiste matière aérospatiale devant lui, puisque c'est lui. Donc on ne va pas le remettre en question dans sa discipline. On va travailler les méthodes, donc on ne va pas l'attaquer sur son terrain, si je puis dire. On va envoyer quelqu'un qui a fait le droit, la philo, l'économie ou n'importe quoi. Et puis évidemment, de retour dans l'équipe, le conseiller va aller trouver l'ingénieur en disant « Dis, t'as pas des conseils à me filer éventuellement au niveau méthode ?» Ils peuvent discuter en interne, entre conseillers. Mais ce n'est pas l'ingénieur qui va aller trouver l'ingénieur. Parce que ça, ça introduit des confusions de rôle et c'est beaucoup plus facile au niveau contact et travail en commun quand on envoie des gens de disciplines différentes. Chacun son rôle. Moi, je pense que le conseil pédagogique peut être l'ingénieur pédagogique de chez vous. Ça peut être un métier qui évolue. L'ingénieur pédagogique peut avoir une casquette de conseiller également. Pour ceux à qui ça plaît, hein. Il y a aussi des ingénieurs pédagogiques qui préfèrent concevoir des modules de formation, faire des choses un peu plus en chambre, si on peut dire. Et puis tout le monde n'a pas envie d'être confronté à des profs. Ce n'est pas forcément le public le plus facile non plus, les enseignants. Hein. C'est... Voilà. Mais ils sont, moi, je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils ont ils ont finalement des tas d'idées et ils sont prêts à beaucoup plus qu'on l'imaginerait au départ. Je pense vraiment. Mais bon, voilà, il faut oser se lancer. Il faut se dire que ça va être enrichissant de part et d'autre. Il ne faut pas partir en disant on va leur prouver qu'on sait quelque chose. Non, il ne faut plus rien avoir à prouver quelque part. Il faut être capable de se mettre au service de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Alors, si on passe maintenant aux avancées dans l'usage des TIS par les enseignants, moi, je n'aime pas trop parler uniquement des outils. Donc, je vous montre quelques outils là, sur un seul écran, mais on ne va pas entrer dans les détails. Vous voyez des tas de noms. Ça, c'est ce qu'on utilise à l'Université de Liège. On en utilise d'autres, mais ce sont les outils principaux qui permettent vraiment de construire un cours avec des technologies. Mais notre travail consiste plutôt à aider les enseignants à voir ce qui pourrait maximiser l'apprentissage de leurs étudiants. Quand on parle de technologie, pour moi, l'idéal, c'est d'arriver vraiment à ce que les étudiants, avec leurs profs, construisent le savoir collectivement. Là, on revient à la pédagogie, mais évidemment, moi, je soutiens les courants constructivistes et, si possible, socio-constructivistes, où vraiment l'étudiant s'approprie la connaissance en la construisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cours ex cathedra. Il y a des moments où, évidemment, pour des ressources de connaissances, de compréhension, c'est très utile. Mais s'il n'y a pas un moment où l'étudiant, pour autant que l'on vise des compétences, où l'étudiant a l'occasion de travailler le savoir et de construire son propre savoir... Je pense que là, on va passer à côté. On peut transmettre des connaissances, mais on ne transmet pas des compétences. Là, il faut vraiment que l'étudiant les travaille. Si on prend Michael Wesch, par exemple, aux États-Unis, qui donne un cours d'anthropologie à l'Université du Kansas, ben lui, voilà son cours, ça ressemble à ça. Vous voyez que bon, c'est très web 2, c'est plein de liens partout, c'est des petites fenêtres, c'est des vidéos et des liens. Il y a du Yahoo, il y a un calendrier Google, il y a des liens que les étudiants commentent avec Digo, il y a des flux RSS qui rapatrient tous les travaux des groupes d'étudiants, il y a d'autres flux qui rapatrient les travaux des étudiants sur leur blog. Bon, et lui, il a plus de 150 étudiants dans son cours d'anthropologie, hein, donc il ne s'agit pas de travailler avec un petit groupe de 20, hein, c'est vraiment des grands travaux. Il a des vidéos en ligne, si ça vous intéresse. C'est vraiment les choses à visiter pour avoir de bonnes idées de comment on construit la connaissance avec les étudiants, en grand groupe, entièrement par Internet. Il a aussi des séances présentielles, mais c'est toujours très actif, très fort dans le questionnement, dans presque la provocation d'apprentissage. On provoque l'apprentissage. Alors ici, si on prend la matrice de pénétration des technologies dans le curriculum de l'Université de Floride, on est généralement dans l'introduction ou l'adoption. Donc on utilise PowerPoint, comme je fais là maintenant, et on se dit bah, « ça, c'est vraiment de la technologie au service d'enseignement ». Bon, c'est vrai. Quelque part, ça aide au moment de la transmission, ça aide à structurer, ça aide à communiquer, ça aide à partager les supports, en tout cas. Mais bon, on est quand même en train toujours de faire un petit peu de la même chose qu'avant. Alors que quand on va vers la droite du modèle, on est dans la transformation. Donc c'est là vraiment qu'on fait, grâce aux technologies, des choses que l'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu la technologie. Ce que fait Michael Wesch avec ses flux RSS et ses blogs rapatriés, c'est pas possible à faire sans la technologie. Les étudiants sont en groupe, et s'ils sont en groupe de 10, d'abord, ils ne peuvent pas se rencontrer toujours, donc ils font des réunions par Internet. Ils taguent chacun des articles en leur mettant des mots-clés, des commentaires dans le texte. Ils travaillent comme ça dans leur petit groupe. Et puis, ils sélectionnent les éléments les plus importants qu'ils vont rapatrier sur le flux commun du cours. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans la technologie. Alors maintenant, évidemment, dans mon université, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui fonctionnent déjà comme ça. Et c'est quelque chose de très innovant encore aujourd'hui, alors que les outils le permettent sans problème. Le problème, c'est plutôt la formation des enseignants. C'est très risqué de se lancer dans des entreprises comme celle-là. Pourtant, Michael Wesch, il est jeune. Il a commencé assez rapidement comme ça. Il a pris le risque. Il avait des grandes classes. Donc c'est possible. Mais moi, je pense que si on veut que les enseignants s'y mettent vraiment, il faut le faire un petit peu avec eux. Il faut les aider, il faut les accompagner pour que les choses se fassent. Et puis, les étudiants n'ont pas forcément besoin d'avoir tous leurs cours comme ça. Bon, ça les ennuierait aussi. Il faut de la diversité, il faut que ça se fasse là où ça a du sens, là où la construction est nécessaire, là où le travail de groupe apporte un plus, là où les étudiants ont vraiment à créer, à inventer. Et là, bon, ça se met bien. Mais ce serait triste que nos étudiants, dans leur cursus, ne rencontrent aucun Michael Wesch, par exemple. Ça, aujourd'hui, ce serait triste, parce que quand on voit la technologie à notre disposition, on a vraiment de quoi faire. Alors, à Liège, on a sur notre campus virtuel à peu près 4000 espaces en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il y a 4000 cours en ligne. Il y a à peu près 700 cours en ligne. Quand on dit cours en ligne, ça veut dire qu'il y a plus que du PDF en ligne. Ça veut dire qu'il y a des tests auto-formatifs ou des études de cas, des résolutions de problèmes. C'est souvent des tests auto-formatifs au minimum. Évidemment, il y a toujours les notes de cours, ça c'est même décrétal, c'est obligatoire. Mais il y a plus que ça. On a un petit outil dont je vous ai mis la référence en bas de DIA qui s'appelle iDemo. Et ça, je trouve que c'est un outil intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup quand je donne cours, enfin, quand je fais des ateliers de formation pour les enseignants. On a en fait filmé une série d'enseignants. Pour l'instant, il y a une vingtaine de démos en ligne. Donc, une vingtaine de profs qui ont accepté d'être filmés et d'expliquer pourquoi ils ont mis leur cours en ligne, ce que ça apporte comme valeur ajoutée à leur enseignement. Et puis, nous faire visiter leurs cours en entrant dans le cours qui, normalement, est à accès conditionnel, réservé à leurs étudiants, mais avec une petite démo en Captivate, on entre dans le cours avec le prof, il dit, ben voilà, j'ai un forum, il sert à ça, et voilà, et je fais telle et telle activité. Bon, donc, il nous balade dans son cours pour nous montrer l'intérêt que ça a. Et moi, je trouve que quand je laisse découvrir des enseignants, j'organise une activité de découverte des démos. Donc, évidemment, ils commencent par se ruer sur les cours de leur discipline et puis se disent « Ah, mais tiens, il y a quand même des choses intéressantes aussi dans ce cours de philo et moi, je ne donne pas la philo » ou dans un cours de langue, etc. Donc, ils vont pêcher des idées dans les cours des collègues et ils se disent « Bah, tiens, si mon voisin fait ça, peut-être que moi, je pourrais le faire aussi. » Alors, ça se fait toujours en séminaire accompagné, mais bon, libre à vous si vous voulez l'utiliser dans vos séminaires. Vous pouvez aller sur la base de données démo, c'est complètement libre d'accès. Dans un esprit Web 2, nous, on aime assez bien partager les ressources. Et bon, c'est ce que vous faites avec vos conférences. Donc, je pense que c'est une assez bonne idée quand on produit quelque chose qui demande pas mal d'énergie, de le partager avec ses voisins, parce qu'on n'a pas trop d'énergie pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc, je pense qu'il y a assez d'idées entre nous pour qu'on se dise que ça vaut la peine de les partager. C'est vrai que j'ai fait mon site NetVibes parce que j'en ai besoin pour enseigner. J'utilise un site WebCity aussi, hein, donc, parce que là, il y a le single sign-on qui me permet d'avoir tous mes étudiants inscrits, que ce soit chez Claudine dans le cursus du Master EGEM, où ben voilà, j'entre dans mon cours, mais tous les étudiants sont là, ils sont déjà inscrits. La page est déjà préformatée, je n'ai plus qu'à aller mettre mes activités, mes forums, mes contenus dedans. Mais bon, je sais que par ailleurs, il y a un forum général, il y a une centralisation d'autres ressources pour les étudiants. Donc là, c'est un espace prévu pour, qui est sécurisé. Mais maintenant, quel que soit le cours dans lequel j'enseigne, même pour une formation IFRES de 3 heures, moi, ça m'arrive souvent de mentionner des ressources. Et je dis aux gens, ben, vous allez voir sur mon NetVibes, vous tapez, bon, moi je connais mes mots-clés, je leur dis motivation, vous tapez VIO, vous tapez motivation, vous tapez professionnalisation, vous tapez IPU, vous tapez... Donc ils n'ont qu'à noter le mot-clé. Normalement, ils peuvent même le trouver tout seuls, s'ils sont un peu créatifs, mais bon. Et j'utilise mon site comme ça, parce qu'autrement, je devais, par la suite, après les cours, envoyer des tas de références à des tas de gens, et finalement, je ne suivais pas, j'en pouvais plus avoir cette charge en plus après. Alors que là, les gens se servent. Tout est ouvert, tout est gratuit. Quand il y a... bon, par exemple, maintenant, il y a eu un engouement assez important pour les activités Web 2 et les outils de construction de communauté, etc. Donc moi, quand je tag un article... Enfin, excusez-moi, j'utilise parfois des mots... Donc taguer, je veux dire, quand je donne des mots-clés à un article et que je le stocke dans ma base de ressources personnelles, eh bien, par les mots-clés que je lui donne, il va automatiquement se stocker dans des flux thématiques sur une autre page de mon site. Donc là, je peux envoyer les gens uniquement sur ce flux thématique et ils auront les 5 dernières ressources que j'ai cataloguées comme étant en rapport avec les outils sociaux, par exemple. Donc, moi, je le fais pour moi, parce que j'en ai besoin dans ma pratique à moi, et donc, je le mets à disposition de mes étudiants, qui sont tous des enseignants. Non, l'université ne le fournit pas, mais il n'y a pas besoin, puisque c'est gratuit sur Internet. Par contre, on peut organiser un séminaire. Bon, par exemple, pour mon NetVibes, moi, j'ai déjà plusieurs enseignants qui m'ont dit « Ah, moi, je veux m'en faire un » et tout. Donc, on a un petit peu expliqué, comme ça, dans un couloir entre deux portes, parce que ça s'apprend vraiment tout seul, c'est vraiment très simple. Mais maintenant, certains souhaitent vraiment être un peu pris par la main pour le faire. Vous gagnez beaucoup de temps, en tout cas sur les choix qu'on fait, pourquoi les pages comme ceci, comme ça, qu'est-ce qu'on met comme type de ressources, etc. Donc on va sans doute ajouter à notre catalogue, là il s'agissait de 50 formations, maintenant on est peut-être à 60, et l'an prochain on va ajouter sans doute une petite formation prise en main, NetVibes rapide, qu'est-ce que je peux en faire avec mes étudiants. Alors les enseignants, quand ils viennent nous trouver... Pour faire de l'e-learning, c'est souvent avec des demandes un peu techniques au départ. Mais je voudrais informer mes étudiants, je voudrais mieux communiquer, ou bien je voudrais techniquement créer ceci, je voudrais mettre des vidéos dans mes notes, je voudrais faire des objets imbriqués. Ils viennent avec des demandes qui sont souvent des demandes un peu techniques. Je voudrais bien faire des trajectoires conditionnelles, qui n'aient pas accès à tel test avant d'avoir fait ceci. Ou bien ils veulent faire des tests formatifs. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que... chaque discussion technique est l'occasion d'un questionnement pédagogique. Donc on saisit le problème technique de l'enseignant, il nous dit « je voudrais mettre des vidéos dans mes cours » et on dit « ok, on va le faire, très bien. C'est quoi la première vidéo ?» Et puis on réfléchit ensemble et puis on dit « tiens, en fait, c'est pourquoi vous voulez mettre des vidéos dans vos cours ?»« Ah oui, ça, c'est vrai que c'est bien ce que vous faites, mais ah oui, et là, on pourrait peut-être pas faire ça en plus. Et ici, la vidéo, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup de sens ?» Bah, comme ça, peut-être pas, mais on pourrait ajouter des liens. Comme ça, au moment où l'étudiant regarde la vidéo, bah, il peut aller en approfondi dans tel ou tel chapitre de la vidéo qui l'intéresse plus. Ah oui, donc il faudrait chapitrer la vidéo. Oui, c'est intéressant de chapitrer la vidéo. Puis on pourrait mettre... Bon. Et donc, en fait, on accueille la demande de l'enseignant et puis on essaye d'aller toujours plus loin. Toujours un petit pas de plus, lui donner des idées, parce qu'en fait, les enseignants, généralement, s'ils ne font pas plus que ce qu'ils font, c'est souvent parce qu'ils se demandent bien ce qu'ils pourraient faire de plus. Puis quand on leur donne des idées, ils ne sont pas du tout contre. Au contraire, ils aiment enrichir leurs cours. Ils disent « Ah oui, ça va être bien, je vais me consacrer à ça cette année. Bon. » Donc vraiment, notre métier, quelque part, c'est partir de là où le prof est, aller là où il veut aller et transformer un tout petit peu la demande pour faire un peu plus et toujours un peu plus. Je pense que ça, c'est notre manière de travailler. Maintenant, l'e-learning, quand on y réfléchit, il y a énormément de plus-value qu'il peut apporter. La flexibilité, elle est évidente, et en particulier avec les jeunes de plus de 18 ans, qui sont des adultes, qui ont plein de choses à faire. L'auto-apprentissage, on peut travailler les performances complexes, des études de cas, l'argumentation, tout ça. Évidemment, c'est très motivant, c'est très engageant pour les étudiants, ça facilite leur engagement, au sens anglais du terme, dans l'activité. Et puis, côté enseignant, on a plus d'efficacité, vu que les feedbacks peuvent être beaucoup plus rapides. On met, ne serait-ce que des corrigés en ligne, pas forcément des correctifs individuels, mais libérer un corrigé d'exercice pour tout le groupe, des choses comme ça, ça peut être très, très rapide. On a une mise à jour qui est instantanée. On peut aller chercher un article de journal, l'ajouter, le scanner, l'ajouter, ajouter un nouveau forum de discussion. Enfin, tout ça, c'est vraiment élémentaire à faire en ligne. Donc, tous les profs, enfin, moi, je dis toujours aux profs, si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Moi, je ne suis pas informaticienne. Donc, si c'est accessible à moi, c'est aussi accessible à vous, évidemment. Collaboration entre collègues, on peut s'échanger des modules, on peut s'échanger aussi des heures de tutorat, quelque part. Tiens, tu es expert en ceci, tu ne pourrais pas me donner quelques heures de tutorat sur mon cours pour telle partie du travail parce que je suis un peu démunie. Bah, pourquoi pas ? Échange de services entre profs qui savent qu'ils ont des activités un peu complémentaires. Alors évidemment, le but de tout ça, c'est toujours de favoriser l'apprentissage en profondeur, puis aussi la réussite des étudiants, évidemment. C'est quand même un de nos objectifs, parce que dans nos universités, en tout cas en Belgique, on a des taux d'échec qui sont extrêmement importants, bon, qui avoisinent encore les 40%, et parfois même plus. Donc je pense qu'on a un effort à faire sur la réussite des étudiants, sans baisser le niveau, et c'est ça le challenge. Alors les vidéos dans les notes de cours, donc c'est assez classique, hein, mais on peut revoir autant de fois que l'on veut. Par exemple ici, la manipulation d'un échographe sur un tractus génital femelle chez les vétérinaires. Donc là, c'est une manipulation de la sonde. Évidemment, ça n'empêchera pas l'étudiant de venir au TP et de manipuler la sonde en vrai. Mais en attendant, il l'aura vu 5 fois, 10 fois s'il veut auparavant. Il sera rassuré au moment où il la prend en main, il saura déjà comment on la prend et puis ce qu'on en fait un petit peu. Les objets, niveau 1, niveau 2, avec des liens, niveau 3, avec une vidéo qui complémente, avec un bouquin qui parle au site de cours en ligne. Donc tout ça, les objets imbriqués, c'est quelque chose de très intéressant pour l'apprentissage en profondeur. Les parcours, ici on est dans des parcours qui utilisent la voix aussi, parce que c'est l'Institut des langues vivantes, donc qui ajoute les outils de voice board à tout ce qui est outils traditionnels des plateformes. Là, l'étudiant doit aller voir des pubs en ligne, participer à un forum vocal, défendre son travail, rendre son travail, et puis avoir accès à un test, etc. Donc les enchaînements d'activités qui commencent par des découvertes et qui se poursuivent par des débats sont très intéressantes. Les progressions conditionnelles, là c'est un cours interuniversitaire qui est donné par un seul prof dans toutes les universités belges. Parce que ben voilà, Bologne avait décidé que ce cours se donnerait à un autre niveau que précédemment. On manquait de ressources, les professeurs, il y en avait un qui partait à la pension. Donc une série de composantes conjoncturelles ont fait en sorte qu'il a fallu se réorganiser comme cela. Il y a des modules de cours entièrement en ligne, les évaluations entièrement en ligne et même les TP entièrement en ligne. Mais ce cours est rythmé comme un cours conventionnel. Donc les étudiants ont un cours, je dirais, module théorique à suivre chaque semaine en ligne et un TP à faire chaque semaine en ligne avec un travail à rendre. Et l'accès au reste est conditionnel au fait qu'on suit bien le rythme d'un cours normal. Ici, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce que peut être un TP en ligne, je peux vous montrer très rapidement. Bon, ici, on est dans le TP sur la lecture de plans et l'organisation d'une stabulation pour les vaches. C'est un cours d'écologie des animaux domestiques où les étudiants doivent apprendre un peu à construire, et, disons, à aider à la construction, à planifier la construction de bâtiments qui peuvent accueillir un tel nombre d'animaux pour tel type de production, que ce soit au niveau des bovins ou au niveau des volailles, enfin, peu importe. C'est un cours de la faculté de vétérinaire, donc. Et voilà, on voit tout de suite que quand on est dans un TP en ligne comme celui-ci, là, je suis en train de naviguer dedans, il y a du son, etc., mais je ne vais pas vous le passer, ça prendrait trop de temps. Mais il s'agit d'animations pour lesquelles ce serait très difficile de s'en tirer sans les animations. Ici, c'est nécessaire que l'étudiant comprenne une progression où on apprend à comprendre vraiment comment le bâtiment est construit, est établi, combien de stèles il faut, comment les vaches partent à la traite et donc pourquoi il faut prévoir tel et tel type d'espace et tel type d'architecture du bâtiment. Ben, vous voyez que c'est absolument nécessaire d'avoir des animations avant le questionnement aux étudiants. Donc ici, on a aussi une claire valeur ajoutée de l'e-learning, parce que le prof, quand il est au cours, il ne peut pas fonctionner aussi bien et montrer les choses et permettre à l'étudiant qui n'a pas compris de revenir en arrière, parce que pendant ce temps-là, les autres doivent avancer. Donc tout ça est absolument utile à l'étudiant. Et d'ailleurs, on a de premières données, c'est un cours qui se donne depuis l'année dernière, qui montre que les étudiants ont mieux réussi les TP, curieusement, depuis qu'ils sont en ligne, que l'année précédente où ils étaient donnés en groupe d'étudiants en amphi. Donc, je veux dire, il peut y avoir un réel intérêt même à passer des TP en ligne, pour autant évidemment que les étudiants aient des espaces pour poser leurs questions, tout ça, ce qui est le cas ici, ça c'est évidemment absolument nécessaire. Donc là, on était dans le TP, lecture de plan. L'illustration des TP est vraiment quelque chose, avec l'adaptation au rythme de l'étudiant, ça apporte vraiment un plus à l'enseignement universitaire. Au niveau des méthodes, les grandes méthodes, les moyens n'ont pas changé. On ajoute les TIS, podcast, mobile, etc., multi-support. Mais ce qui compte pour nous vraiment, c'est de se demander comment on va faire pour que nos enseignants se saisissent de ces technologies qui sont tellement importantes dans le quotidien de l'apprentissage aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre dernier point sur l'accompagnement. L'accompagnement, je pense qu'il doit être multiforme. Donc on utilise une formule atelier à Liège qui est une formule où les enseignants ont le choix entre une cinquantaine d'ateliers, dont tout un bloc d'ateliers concerne les technologies. On a des formations au niveau master complémentaire, je vous ai dit, c'est Formasup. On a aussi des accompagnements individuels, l'enseignant qui vient, qui veut voir un conseiller pédagogique, qui peut toujours le rencontrer, que ce soit pour une question liée ou non aux technologies. Ça peut être lié à la motivation de ses étudiants, à la mise au point d'un TP présentiel avec un travail de groupe nécessaire. Ça peut être pour toute une série de questions, mais rendez-vous individuel. Les accompagnements de groupe, ça c'est vraiment très important pour nous. Ça nous permet d'accompagner vraiment des réformes. Une faculté qui dit, nous, on voudrait passer à une pédagogie basée sur les projets, par exemple, ou basée sur les problèmes, ou on voudrait que dans tout le cursus de bachelier en droit, on ait une interactivité plus importante avec les étudiants dans chacun des cours. Donc tout ça, c'est des accompagnements de groupe. Et alors, on a des actions comme des conférences annuelles, la journée de l'IFRES, des activités comme celles que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est évidemment très important aussi. Et tout ce que les enseignants font au bénéfice de leur enseignement, ils peuvent le consigner dans leur portfolio d'enseignement qui, à côté du portfolio recherche, est un outil qui leur permet de viser une promotion, une nomination. Les formations, alors chez nous, il y a 10 séances obligatoires pour tous les jeunes enseignants, donc les enseignants débutants, dans leur premier mandat de 3 ans, ils doivent se mettre en ordre avec leurs 10 séances d'une demi-journée chacune. Et donc tout enseignant y passe, tout assistant y passe. Ça veut dire qu'il y a quand même des centaines de personnes chaque année. Ce ne sont pas du tout des séances théoriques ex cathedra, ce sont des ateliers avec beaucoup de témoignages, avec beaucoup d'accent placé sur le sens. Pourquoi est-ce qu'on se tracasserait de la motivation de nos étudiants? Pourquoi est-ce qu'on se tracasserait d'essayer de les faire travailler en groupe? Pourquoi est-ce qu'on se tracasserait de les faire construire leurs connaissances? Donc, et avec des exemples concrets d'enseignants qui le font dans différentes facultés, dans différents environnements de la même université. Donc on a jusqu'ici, l'année dernière, 56% des encadrants de toute l'université avaient déjà démarré cette formation, avaient participé à plusieurs séances. Et ça continue, vu que c'est obligatoire pour les nouveaux, ben, fatalement, il y a chaque année un petit peu plus d'enseignants qui sont passés par là. Et on leur demande, au bout de ça, de nous faire un rapport d'une seule page sur le transfert. Qu'est-ce que vous avez de ces séances transférées dans votre cours, dans vos cours? En quoi est-ce que ça a changé votre pratique? En quoi est-ce que vous êtes des enseignants différents après qu'avant? Et ils n'ont pas du tout d'obligation de nous dire « c'était génial, ça a changé ma vie », pas du tout. Parce que peu importe ce qu'ils écrivent, de toute façon, ils ont l'attestation comme quoi ils ont suivi leurs 10 séances. Et donc, ils nous disent simplement la vérité. Et il y en a qui nous donnent des conseils intéressants, d'ailleurs, pour modifier, pour améliorer ces séances, voire des suggestions de nouvelles séances. On aimerait travailler sur, par exemple, le fait de poser sa voix dans un grand amphi. On aimerait travailler sur... Bon, voilà. C'est évidemment quelque chose de difficile à organiser pour nous, parce que bon, il faut beaucoup de séances, il faut beaucoup de thématiques, il faut dupliquer les séances. Il y a des séances qui se donnent 6 fois sur la même année, parce qu'elles ont un grand succès, et puis d'autres qui ont moins de succès. Mais ça permet à chacun d'avoir une panoplie comme ça, de pouvoir faire son choix dans ce qui l'intéresse. C'est un débat intéressant. Moi, je pense qu'il faut quand même, qu'il faut pas limiter les questions d'impact aux questions de technologie. Je vois pas pourquoi on devrait prouver que les technologies sont plus ou moins utiles que le papier et le crayon. Enfin, quelque part, là, ça n'a pas de sens parce que c'est tellement évident. Quelle est l'université aujourd'hui qui peut se passer d'avoir un serveur centralisé et une plateforme d'enseignement à distance, quelle qu'elle soit, hein, parce que moi, peu importe la marque, ça peut être une plateforme interne, ça peut être n'importe quelle plateforme du commerce, ça peut être Moodle qui est open source, ça peut être Sakai, ça peut être n'importe quoi. Mais quelle est l'université qui peut s'en passer ? Est-ce qu'il y a une seule université qui se passe d'un outil centralisé pour la gestion de sa comptabilité ? Je ne sais pas, moi, je ne pense pas. Nous, on a SAP, peu importe de nouveau l'outil, mais ce n'est pas possible de se passer d'un outil de gestion. Ben, ce n'est pas possible non plus de se passer d'une politique e-learning. Maintenant, je pense que donc, la question de l'impact, c'est presque injurieux de l'imposer à une activité e-learning alors qu'on ne l'imposerait pas au reste. Donc il faut arrêter ça. Il faut dire, allez-y, ceux qui me disent que je dois démontrer un impact, démontrez-moi le vôtre d'impact. Moi, je pense que l'impact concerne toute la communauté universitaire dans toutes ses actions, et notamment dans l'enseignement. Donc on doit démontrer l'intérêt des méthodes d'enseignement que l'on déploie. Ça, c'est vrai. Mais pas forcément l'impact de la technologie. C'est comme si on me demandait d'isoler l'impact de mon BIC par rapport à l'impact de mon ordinateur. Les deux sont utiles, ils sont complémentaires. Et je ne vais jamais pouvoir isoler les variables qui me permettent de répondre à cette question-là. Par contre, si on me dit, démontrez un peu, Alain, vous, faculté d'ingénierie, là, que votre méthode des projets, elle est intéressante. Là, la question commence à avoir, je trouve, de l'intérêt. Parce que c'est normal qu'un cursus complet se remette en question et se demande pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne. Et là, moi, je pense qu'on doit travailler avec les groupes d'enseignants non-stop pour les habituer à rendre compte de leurs pratiques, à recueillir des données sur l'impact des méthodes sur l'apprentissage des étudiants. Mais c'est au sein de chaque groupe qu'on doit recueillir des données. C'est au sein de chaque cursus qu'on doit se tracasser de son impact. Donc, par exemple, si on a une méthode projet, eh bien, le groupe d'enseignants qui pratique cette méthode va devoir se questionner sur l'intérêt de ces projets, la valeur ajoutée pour les étudiants, les lieux où les étudiants sont encore en difficulté. Mais ça, il faut les questionner, il faut observer leurs résultats, il faut les observer au travail, il faut être là pour recueillir leurs remarques quand ils sont dans la difficulté, il faut essayer de voir aux examens aussi les points qui posent encore problème, pourquoi est-ce que ces points-là posent problème, est-ce qu'ils ont été abordés ou non dans les projets. Enfin, tout ça, c'est un questionnement que l'équipe doit avoir, l'équipe qui fonctionne de cette façon-là avec les étudiants. Alors évidemment, maintenant, quasi dans toutes les équipes, il y a des gens qui utilisent les technologies, et souvent, c'est un plus. Mais donc, ça entre dans l'étude d'impact, cette technologie, comme un des facteurs étudiés, mais au même titre que les autres. Comme le fait de les mettre en groupe ou pas en groupe, de faire des groupes mixtes ou des groupes de niveau ou des groupes d'âge ou des groupes hétérogènes, le fait de faire encadrer des étudiants de premier bac par les premiers masters, le fait de... Tout ça, ce sont des composants, tout comme la technologie en est une, et ce sont leurs impacts combinés que l'on approche. Je ne vois vraiment pas pourquoi la technologie devrait rendre des comptes plus qu'autre chose. Par contre, je vois fort bien pourquoi on devrait beaucoup plus rendre des comptes que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, dans tous nos cursus, dans tous nos diplômes, pour toutes nos actions de formation. C'est normal de se retourner et de regarder derrière soi l'intérêt de ce qu'on a fait. Les médecins le font, les ingénieurs le font, mais pourquoi pas les enseignants ? Oui. En plus, les enseignants sont tout à fait capables. Ils ont, évidemment, quelque part, ce handicap de départ d'avoir toujours donné des notes à leurs étudiants. Et donc, ils se disent « Ah ben, c'est ça, l'impact ». Oui, ben non, c'est un peu mince, quoi. Il y a autre chose, il faut aller plus loin, il faut creuser, il faut se dire « Ok ». J'ai ma courbe de Gauss. D'abord, est-ce que c'est le but, la courbe de Gauss ? Ben non, en fait, c'est quand même pas du tout le but. Le but, c'est la courbe de maîtrise, hein, la courbe en J, pour vous, donc, qui est comme ça. Si j'ai une courbe de Gauss, c'est déjà qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, OK, c'est mieux que de les voir tous ratés, mais c'est encore vraiment pas du tout optimum. Donc, alors, j'ai mes résultats. Bon, ils sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils soient comme ça ? Pourquoi est-ce que ceux qui sont au milieu n'ont pas mieux réussi que ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils réussissent mieux que ça ? Est-ce qu'il y a des méthodes qui ne leur conviennent pas ? Comment est-ce que je pourrais les rendre plus actifs ? Est-ce qu'ils se sont rendus compte assez tôt du fait qu'ils n'allaient pas réussir l'examen ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils s'en rendent compte assez tôt ? Souvent, la réponse, c'est j'ai rien fait. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah ben, hein, y a des tas de choses à faire. Donc, entrer en questionnement et puis commencer à se dire que ce serait normal d'avoir... avec sa méthode, un peu plus d'impact sur les étudiants, ça me paraît normal. Surtout que l'enseignant ne doit pas forcément y passer plus de temps. Il doit un peu changer ses méthodes, mais il ne va pas avoir plus d'heures avec ses étudiants, il va juste fonctionner un peu différemment. Donc c'est maximiser son temps de présence aux étudiants et son temps de travail avec les étudiants, mais ce n'est pas forcément donner plus de travail de son temps. Nous, ça a été très simple, ça a été... l'obligation au niveau de la présidence de l'université, parce qu'on s'est dit il faut avancer, il y a un moment où pour avancer il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément populaires, mais qui vont être efficaces assez rapidement. Et nous, ce qu'on constate, déjà maintenant, là ça fait seulement 4 ans que c'est obligatoire, mais déjà maintenant, la jeune génération là, qui commence, pour eux, c'est même plus remis en question, la formation. Ils trouvent que, d'abord, si ça n'avait pas été obligatoire, pour ce qui est des assistants, en tout cas, sans doute que les profs ne les auraient pas laissés aller, pour certains, parce que ça consomme du temps. Pendant ce temps-là, ils ne font pas de l'encadrement étudiant ou ils ne font pas d'autre chose. Et donc là, ils disent, nous, c'est bien pour notre formation, parce que si par la suite, on n'a pas de poste à l'université, même si on passe en entreprise privée ou ailleurs, c'est bien pour notre CV d'avoir une formation pédagogique, une réflexion de 10 demi-journées. C'est un capital. Et quel que soit l'endroit où on va le transporter, ce capital, dans notre vie professionnelle, c'est un acquis pour nous individus. Puis alors, y a tous ceux qui se disent, l'ETIS, on ne savait pas trop comment s'y mettre, on n'avait pas le temps, on ne trouvait pas les moyens. Et puis là, puisqu'il faut quand même envoyer les gens en formation, autant s'y mettre. C'est l'occasion de mettre mon cours en ligne, je vais envoyer mon assistant et puis je vais travailler avec lui. Moi, je vais aller à la séance... intro e-learning, et puis l'assistant, il va continuer. Et puis alors, on sera en dialogue, mais on se comprendra, et lui, il pourra agir plus en profondeur que moi. Et donc là, il y a plein de choses qui se font, qui ne se seraient pas faites sans cette obligation. Et finalement, parfois, il se fait qu'une obligation peut être libérante. Elle libère même de se poser la question du fait qu'on va le faire ou qu'on ne va pas le faire. On va le faire, point, c'est tout, parce qu'il y a un grand manque à gagner à ne pas le faire. Et donc... nous maintenant, on est dans une situation où après 4 ans, la réflexion pédagogique, c'est quelque chose qui est considéré comme normal entre enseignants dans les couloirs. Ce n'est pas le truc dont on ne parle pas parce que c'est un peu une maladie honteuse, là. Il vaut mieux parler de la recherche, ça c'est mieux. Donc c'est plus ça. Maintenant, la formation valorisée par le rectorat qui dit c'est obligatoire, c'est une manière de montrer que ça doit être important pour chaque individu qui a en charge l'encadrement des étudiants. Donc il y a des moments, moi je pense, où il faut prendre des positions fortes. Maintenant, quand l'obligation n'est pas là, moi je pense quand même que la diversité des types de formation possibles, ça c'est quelque chose qui peut attirer les enseignants. Et généralement, on les attire par des projets de groupe et des accompagnements de groupe. Donc là, on entre dans le groupe, et puis au moment où on est dans le groupe et où on est en train d'accompagner une réforme d'un programme, par exemple, eh bien là, on dit, vous savez, ici, il y a telle thématique, mais vous devriez participer à telle séance de formation, parce que nous, on ne va pas tout répéter en individuel, alors qu'il y a un groupe de 15 qui fonctionne sur ce sujet-là. Vous allez, on peut même organiser une formation pour vous et pour tel autre groupe en même temps. Donc, avoir de la flexibilité, mais se mettre au service des profs dans leur projet à eux, et puis de là, les amener en formation sur les thématiques qui ont du sens pour leur projet. Parce que parfois, ils ne savent pas que les choses ont du sens pour leur projet, mais quand on leur dit, ils sont tout à fait ouverts à participer à une séance de formation et ils y sont d'ailleurs très actifs. Donc ça, c'est bon. Alors pour la question sur la formation des conseillers pédagogiques, moi je pense qu'un conseiller pédagogique et un ingénieur pédagogique, c'est pas pareil. Maintenant, vous pouvez ajouter une corde à l'arc des ingénieurs pédagogiques et qu'ils soient aussi conseillers pédagogiques parce qu'ils sont quand même très bien placés pour prendre ce rôle-là. Mais c'est quand même un autre apprentissage que de pouvoir se mettre au service d'un groupe en fonctionnement, conseiller un enseignant sans lui donner des leçons. Et maintenant, c'est bien que dans les groupes de conseillers, il y ait quand même l'un ou l'autre prof, je dirais avec un titre académique, parce que ça aide à la reconnaissance de tout le groupe. Donc moi, dans mon équipe, il y en a beaucoup qui ne sont pas docteurs et qui ne sont pas dans une carrière académique. Mais ce n'est pas grave, parce que l'image de notre groupe est une image qui bénéficie de ce statut académique, même si on ne l'a pas tous. Et ça donne une reconnaissance, quelque part, qui contamine positivement le groupe. Et j'ai dans l'équipe, il y a des conseillers pédagogiques qui sont extrêmement performants, qui ne sont pas docteurs et qui ne le seront jamais, et qui ne seront jamais académiques, mais qui sont extrêmement performants et qui sont allés à pas mal de formations, notamment dans le groupe BSQ, qui était mentionné tout à l'heure, Belgique-Suisse-Québec, qui est devenu BSQF avec la France depuis le travail de nos grenoblois et lyonnais de choc. Donc voilà, il y a des lieux de formation dans lesquels je pense que les ingénieurs pédagogiques pourraient devenir aussi conseillers pédagogiques. Et puis on essaie de se structurer parce que bon, moi, par exemple, je dois tout le temps engager dans l'équipe du LabSET et on ne trouve pas. Bon, pour l'instant, on est encore en train de chercher deux personnes. C'est très difficile. Donc à quelques collègues, on s'est dit, ben, on va, par exemple, avec Formasup qu'on a comme outil, et il y en a des diplômes comme ça dans d'autres pays. On va ajouter une branche conseil pédagogique à Formasup. On va organiser des stages internationaux. On va faire voyager nos conseillers. Ils vont faire un mois en France, un mois en Suisse, un mois au Canada, un mois en Belgique. Ils auront découvert différents types de pratiques. On va les faire bouger. Et puis, dès qu'ils ont terminé, on va les engager tous. Parce qu'on est plusieurs à les attendre. Non, mais maintenant, sans rire, c'est vraiment quelque chose de difficile à trouver tout près, un conseil pédagogique. C'est un investissement de plusieurs années. Et je pense que les cursus ne sont pas encore suffisamment prêts pour nous former les conseils dont on a besoin. Et il va y avoir un besoin immense parce que la France s'y met et la France, c'est grand. Je pense qu'on a du travail de ce côté-là. Ici, on est dans les accompagnements de groupes d'enseignants, par exemple. Ben là, on finance, on lance à l'intérieur de l'institution des appels à projets où on finance à hauteur de 13 000 euros par an, par équipe, les équipes qui souhaitent remodeler leur cursus et définir des référentiels de compétences, changer les méthodes, etc. Donc là, on a des consultants extérieurs qui travaillent avec nous, qui suivent les équipes à distance et en présentiel. Chaque équipe a un petit financement intérieur, mais doit surtout donner de son temps pour travailler avec nous et avec les consultants extérieurs. On a pour l'instant Jacques Tardif et Philippe Pernoux qui travaillent avec nous pour cette pédagogie axée sur le développement de compétences. Le dossier d'enseignement, donc le portfolio, c'est cette collection de preuves de l'efficacité de son propre enseignement, donc preuves de sa recherche en classe, quelque part. Je me tracasse de l'apprentissage de mes étudiants et je peux le démontrer. Donc ça, on le présente sur notre portail et c'est pris en compte à côté du dossier de recherche de l'enseignant pour ses promotions, ses nominations. Alors c'est pris en compte pas de la même façon dans toutes les facultés. Il y en a qui le prennent plus en considération que d'autres. C'est quelque chose qui se réfléchit beaucoup en interne. On a créé une nouvelle commission cette année, mais ça se réfléchit et c'est important. Parce que je pense que, pour conclure, si on peut dire que les TIS sont un atout pour la qualité des enseignements, et je pense qu'on peut clairement le dire, bien en même temps, ce n'est qu'un atout, donc ce n'est pas tout. Les TIS, c'est bien, mais il faut aussi aider les enseignants à se les approprier, les accompagner quand ils veulent réformer les structures un petit peu plus en profondeur. Et cet accompagnement-là du développement des professionnels de l'enseignement doit prévoir, je pense, un éventail de services. Donc il faut absolument qu'on ait une gamme de services à proposer aux enseignants, pas juste des formations, pas juste des sensibilisations, pas juste des choses en présentiel, mais aussi en ligne, pas juste individuelles, mais aussi en groupe. Aussi avec des consultants extérieurs, il y en a qui aiment voir du sang neuf, aussi sous forme de conférences. Je pense qu'il faut un mix de toutes ces techniques pour que chacun soit respecté dans ses préférences et toujours garder le cap sur l'apprentissage des étudiants. Donc quel est l'impact de ce que je vais faire avec ma classe cette année et que je ne faisais pas l'année dernière? J'ai introduit des travaux de groupe? Ok, quel impact? J'ai introduit une nouvelle activité avec des études de cas pour augmenter l'apprentissage en profondeur et pour favoriser la motivation des étudiants? Ok, sur quel facteur est-ce que j'ai joué? Quel a été l'impact de la mesure? Donc toujours essayer d'avoir ce cap sur l'impact et cap sur l'apprentissage des étudiants. Et puis alors valoriser les efforts de chacun. Donc nous, on le fait à travers le portfolio, mais pas uniquement. C'est aussi à travers le fait que certains projets soient financés, à travers le fait que certains enseignants soient invités comme témoins. C'est valorisant pour un enseignant d'être invité comme témoin. Donc tous ces moyens de valoriser les enseignants sont importants. Et si on utilise les TIS, que l'on garde ce cap sur l'apprentissage, que l'on aide les enseignants à se développer et que l'on valorise leurs efforts, parce que l'un ne va pas sans l'autre, alors on entre dans ce cercle vertueux avec ces différents moteurs de l'amélioration de l'enseignement qui sont en train de jouer, je dirais, en concert pour maximiser la réussite des étudiants. Et puis bon, on peut dire que c'est quelque chose d'un peu annexe, mais c'est un clair soutien à l'accréditation institutionnelle de nos institutions. Nos institutions sont toutes évaluées, elles doivent rendre des comptes. Et au moment où elles doivent rendre des comptes, dire nous, on a des enseignants qui sont formés, qui sont conscientisés, qui travaillent ensemble, qui mènent des réformes en commun, qui utilisent des TIS. Enfin, on peut avoir une série d'indicateurs qui sont clairement aidés quand les enseignants sont formés et savent ce que c'est que l'impact de leurs activités sur l'apprentissage des étudiants. Ça, c'est difficile, mais il me semble que si c'est quelque chose qui est en émergence chez vous, vous pourriez profiter du fait que c'est en émergence pour le faire tout de suite ensemble et ne pas construire chacun dans votre coin un service qui va être extrêmement coûteux. Ou alors, si vous avez chacun des conseillers chez vous, au moins organiser leur formation en commun, les échanges sous forme de réseau. Ne pas essayer chacun d'inventer ça chez vous, parce que c'est extrêmement coûteux. Même au sein de mon équipe, quand je vois le partage de connaissances, chez nous, c'est vraiment important. Ça coûte très, très cher. On a une réunion mensuelle d'une demi-journée avec toute l'équipe. Donc, voilà, ça coûte 30 demi-journées par mois, rien qu'à l'équipe, d'organiser son propre knowledge management, si on peut dire. Donc le partage de connaissances, quand quelqu'un va à un colloque, il raconte, quand quelqu'un a lu quelque chose dans un bouquin, dans une revue, qui le frappe et qui entre dans une position de controverse avec ce qu'un autre auteur a écrit, bon, il faut qu'on en discute. Quand on a un modèle qui évolue, il faut qu'on en discute. Quand on a une technologie nouvelle qui débarque, il faut qu'on en discute. Quand on a un nouveau logiciel de traitement de données, pour le texte narratif qui pourrait être utile par différents profs, il faut qu'on en discute. Quand on a reçu, il y a eu le débarquement des outils qui permettaient le traitement de la voix, par exemple, ou les forums vocaux, les chats vocaux, etc. On s'est dit, tiens, pour les cours de langue, c'est intéressant, mais pour d'autres cours aussi. Donc on devait nous-mêmes inventer des applications pédagogiques pour pouvoir enseigner les profs qui allaient l'utiliser. Quand on a commencé à utiliser un petit peu partout internationalement le problem-based learning, on s'est dit, tiens, et comment est-ce que ça peut aller avec la technologie? Dans quelles universités est-ce qu'on fait ça? Où est-ce que ça se place par rapport au développement de compétences? En fait, c'est plutôt dans le développement de ressources. Non, ce n'est pas forcément des compétences. Dans quelle fac est-ce que c'est pertinent? Dans quelle fac est-ce qu'il vaut mieux conseiller des projets, des cas? Est-ce qu'un cas est un projet? Enfin, tout ça sont des choses dont on doit absolument débattre entre nous en équipe pour être mieux armés en tant que conseiller pédagogique, pour aller discuter avec les facs, discuter avec les profs. Donc on doit connaître les méthodes, les outils, les articles, la théorie. Tout ça, c'est vraiment très, très cher au niveau d'une seule équipe. Donc si vous pouvez le faire ensemble, moi, je pense que vous avez intérêt à le faire tout de suite ensemble, quitte à ce que chaque université, évidemment, ait ses conseillers par la suite qui travaillent au sein de l'université. Mais leur formation, je pense qu'elle devrait être mutualisée. Pour le recrutement, non, parce que dans la politique d'établissement, il y a aussi un critère qui est qu'il est bon de se nourrir de l'extérieur et donc de ne pas être trop en recrutement endogène, Donc au niveau du recrutement, je pense que ce ne serait pas une bonne chose qu'on privilégie nos assistants qui ont fait les 6 ans d'assistanat et puis qui deviennent profs chez nous. Je pense que ça, non. C'est un plus pour eux, s'ils s'envolent ou qu'ils veulent, c'est bien pour eux. Donc au niveau du recrutement, non. Pour une autre raison aussi, c'est que d'autres enseignants arrivent de l'extérieur avec d'autres formations. J'ai discuté avec un enseignant qui venait d'Allemagne récemment, qui avait suivi en Allemagne un cursus très intéressant aussi de réflexion critique sur l'enseignement qu'il avait. C'est très bien d'avoir un enseignement comme ça qui est un peu nourri de pratiques qui viennent de l'extérieur. Et d'ailleurs, cet enseignant peut être appelé comme témoin dans nos formations. Donc voilà, je pense qu'il faut tirer parti aussi de ce qui vient de l'extérieur. Donc non pour le recrutement. On doit pouvoir être ouvert aux enseignants qui viennent de partout. Par contre, on va être plus exigeant au niveau du recrutement parce qu'on va exiger un enseignant qui a envie d'enseigner, qui sait ce que c'est qu'enseigner, qui a une réflexion critique sur son enseignement. Donc il n'a pas forcément suivi une formation chez nous, mais ça commence à être considéré comme normal d'avoir une réflexion sur l'enseignement quand on arrive et qu'on veut un poste. Oui, en dehors de chez nous. Oui, oui. Alors maintenant, sur les nominations, là, chez nous, c'est obligatoire d'avoir suivi les 10 séances quand on veut une nomination définitive ou une promotion. Là, il n'y a pas de dérogation. Si c'est déjà arrivé quand quelqu'un était resté 2 ans à l'étranger, on lui donne 6 mois de plus pour se mettre en ordre quelque part. Mais voilà, il faut vraiment des cas critiques. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne va pas faire marche arrière. C'est pas énorme, 10 demi-journées sur 3 ans. C'est 10 demi-journées à faire sur 3 ans. C'est pas 10 par an, c'est 10 sur les 3 ans. Donc quand même, c'est leur métier, être enseignant. Voilà, s'ils se disent pas qu'ils peuvent consacrer 2 jours par an à améliorer cette facette si importante de leur métier. Bon, en plus, on leur dit clairement, c'est aussi pour être plus heureux dans le métier. Si on se dit qu'on le fait bien, ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir plus de plaisir à le faire. Nous, on a des enseignants qui s'inscrivent dans le master complémentaire Formasup et qui arrivent clairement en disant « Moi, je veux retrouver du plaisir à enseigner. Je veux que ça aille mieux dans mes classes. » Mais il y en a aussi qui viennent et qui sont extrêmement performants et qui se disent « Moi, je veux pouvoir parler avec des termes pédagogiques de ce que je fais parce que je sais que c'est bien, mais je ne sais pas le dire. Et je sens que c'est bien, je fais plein de choses, mais je voudrais formaliser ça pour mieux le partager. » Donc on a différents types de demandes, mais il y en a clairement qui viennent en se disant « Bon, moi je suis même à 3 ans de la fin de carrière, on a eu un doyen qui s'est inscrit qui a dit ça, et je remarque que je m'amuse toujours beaucoup à faire de la recherche, mais l'enseignant ça me passionne plus trop parce que je fais tout le temps la même chose. Et puis je voudrais faire quelque chose de différent, de plus efficace pour mes étudiants, pour retrouver le goût de ça, parce que j'ai besoin de défis, je suis quelqu'un qui a besoin de défis. » Et il a retrouvé des défis parce qu'il s'est questionné, il s'est dit « Ah ben oui, je préfère ça, comme ci, comme ça. » Et voilà, le plaisir d'enseigner, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'on y passe tellement d'heures. Pourquoi ce ne serait pas en plus agréable ?